VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. 6 policiers et un officier ont été tués en Égypte dans une attaque djihadiste mardi soir près d'Al-Rich dans le nord du Sinaï, région isolée où sévit une insurrection djihadiste, a annoncé aujourd'hui le ministère égyptien de l'Intérieur. Cette nouvelle attaque intervient en pleine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de football en Égypte, pour laquelle les stades utilisés ont toutefois été placés sous haute sécurité et se trouvent à distance du nord Sinaï. 4 assaillants ont également été tués lors des accrochages qui ont suivi l'attaque, dont un par la ceinture d'explosifs qu'il portait. Égypte toujours, le chef djihadiste égyptien Hiram el-Hashmawi, livré aux autorités du Caire par le maréchal libyen Khalifa Haftar en mai, a commencé à être jugé hier pour 5 attaques pour lesquelles il avait été condamné par contumace. Le djihadiste est accusé d'avoir mené des opérations terroristes contre l'armée, les forces de police et des civils ayant fait 54 morts au total. Hiram el-Hashmawi est également accusé, entre autres, d'avoir mené d'autres attaques dans le désert occidental égyptien, d'une tentative d'assassinat en 2013 contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Mohamed Ibrahim, et du meurtre en 2015 d'un procureur. En RDC, l'armée congolaise annonce avoir tué 16 miliciens dans 2 offensives contre des positions d'un groupe armé en Ituri. Récemment, au moins 160 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires qui ont fait des centaines de milliers de déplacés. John Lyndon.
Selon le lieutenant Jules Tigoudi, porte-parole de l'armée à Ituri, une double attaque a été menée sur des positions des assaillants dans 2 villages du secteur de Walendupitsi, causant la mort de 16 assaillants. Selon lui, les opérations sont concentrées autour de la localité de Gbagdouma. Du 10 au 12 juin dernier, des violences ont fait au moins 160 morts dans le territoire de Djougou, selon le bilan des autorités de la province, et 300 000 personnes ont fui les affrontements. Une situation déplorée par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Ituri avait été le théâtre d'un conflit entre les communautés Emma, composées d'éleveurs, et les Lendu, regroupant des agriculteurs. Ce conflit avait fait des dizaines de milliers de morts entre 1999 et 2003 dans cette province frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud. L'Ituri est aussi touchée par l'épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 1500 morts, principalement dans la province du Nord Kivu.
Une centaine d'étrangers ont été arrêtés en Mauritanie lors de manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur alors qu'Internet était entièrement coupé. Depuis le milieu de l'après-midi, les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués dans l'après-midi par le ministre des Affaires étrangères Ismaël Houd Cheikh Ahmed, qui les a enjoints de demander à leurs ressortissants de s'abstenir et de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public en Mauritanie, a expliqué le chef de la diplomatie sur la télévision nationale. L'Organisation internationale pour les migrations a annoncé hier avoir secouru la semaine dernière plus de 400 migrants dans le désert du Niger. En fait, l'OIM, selon l'OIM, près de 20 000 migrants ont été secourus dans le Sahara depuis avril 2016. Les migrants secourus récemment sont souvent des ressortissants ouest-africains expulsés d'Algérie vers le Niger. Pour plus d'explications, Abdourahmane Dia a joint le chef de la mission de l'OIM au Niger, Martin Wyss.
Le gros de nos opérations se résumait en parlant d'aider et de sauver les gens qui arrivent depuis l'Algérie sur un endroit qui s'appelle Point Zéro, 12,5 kilomètres d'un petit endroit qu'on appelle Assamaka, et le seul poste frontalier entre le Niger et l'Algérie. Et là, 90% de tous les migrants qu'on appuie et qu'on aide et qu'on sauve.
Alors ce sont des migrants qui ont été expulsés d'Algérie vers le Niger?
C'est vrai, c'est correct, exact.
Et
exact.
Abandonnés à eux-mêmes dans le désert?
C'est exact.
Quand même, 20 000 personnes secourues depuis 2016, c'est beaucoup. Qui sont ces migrants? De quelle nationalité ils sont pour la plupart?
C'est une bonne question. La grande majorité, ce sont des ressortissants de la CEDEAO. D'ailleurs, dans les statistiques normales, on exclut les Nigériens, pas complètement, mais parce qu'il y a en parallèle, il y a un système qu'on appelle les convois officiels. Ce sont des rapatriements organisés entre l'Algérie et le Niger spécifiquement pour les Nigériens. Donc, pour répondre à votre question, l'année dernière, 2018, il y avait 38%. Tous ceux qu'on a appuyés, c'était des Maliens. Et 30 et quelques pourcents, je ne me souviens plus, 33-34%, c'était des Guinéens de Guinée-Conakry. Selon nos informations, et moi j'ai parlé personnellement avec ces gens, pas tous évidemment, mais avec beaucoup, géographiquement, ça ne fait aucun sens que ces gens du Guinée-Conakry ou du Mali soient entrés en Algérie à travers le Niger. Donc là, il y a un point d'interrogation.
Et qu'en est-il aujourd'hui de la route vers la Libye? Est-ce qu'il y a moins de trafic, si on peut dire ainsi?
Oui, on peut dire ainsi. Et en ce qui concerne nous, les gens qu'on secourt, la vaste majorité sont des gens qui vont dans la direction opposée, soit ils viennent du nord pour rentrer chez eux dans le sud.
Martin Weiss, joint au Niger par Abdourahmane Dia.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ancien procureur spécial américain Robert Mueller, qui a mené l'enquête pendant près de 2 ans sur l'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016, va témoigner en public devant le Congrès américain. Et ce sera le 17 juillet, ont annoncé mardi les élus démocrates. Robert Mueller était sorti de son silence fin mai à la surprise générale pour expliquer que ses investigations tentaculaires n'avaient pas lavé Donald Trump de tout soupçon, mais que seul le Congrès était en mesure de poursuivre un président en exercice. Le président sud-coréen Moon Jae-in a rejeté aujourd'hui l'idée selon laquelle les négociations sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang seraient dans une impasse, tout en exhortant à la patience après 70 années de défiance. M. Moon, qui avait joué un rôle crucial pour permettre l'année dernière le rapprochement entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a également exhorté Pyongyang à reprendre le dialogue pour témoigner de sa volonté d'aller vers la dénucléarisation. Le président sud-coréen, qui doit recevoir ce week-end son homologue américain, multiplie les efforts pour relancer un processus de négociation qui semble au point mort depuis le fiasco en février à Hanoï du second sommet entre M. Kim et Trump. 2 soldats américains ont été tués mercredi en Afghanistan, a annoncé l'OTAN au lendemain d'une visite du secrétaire d'État Mike Pompeo à Kaboul, qui a espéré parvenir à un accord de paix avec les talibans avant le 1er septembre. L'identité des 2 hommes et les circonstances de leur mort n'ont pas été précisées dans le communiqué de la mission de l'OTAN, dont le but est de former et de conseiller les forces afghanes. Au moins 9 soldats américains ont été tués depuis le début de l'année dans le pays, contre 12 au total en 2018. On termine ce journal avec du sport. Coupe d'Afrique des Nations, début cet après-midi de la 2e journée de la phase de groupe. Le Nigeria ouvre le bal face à la Guinée à 14h30 temps universel. Les Super Eagles ont observé hier un mouvement d'humeur. Ils réclamaient que leur prime soit payée après la victoire contre le Burundi. Autre rencontre, le Sili National de Guinée va essayer de décrocher sa première victoire dans cette CAN après le match nul d'entrée 2-2 contre Madagascar. Le second match de la soirée opposera aujourd'hui l'Ouganda en pleine confiance au Zimbabwe à 17h, juste après 20h temps universel face au pays hôte, l'Égypte. Les Léopards de la RDC, eux, tâcheront de se racheter après leur faux pas devant l'Ouganda. Depuis le Caire, nous avons la correspondance de notre de Jonathan Massiala de Top Congo FM.
Pour se relancer, tel sera l'objectif de la RDC ce mercredi en affrontant l'Égypte. Battue lors de la première journée par les Ougandais sur le score de 2-0, les Congolais devront être meilleurs sur tous les plans pour ne pas perdre face au pays organisateur, a dit en conférence de presse d'avant-match Jean-Florent Ubengue, coach principal de la RDC.
C'est un autre match, il faudra l'aborder différemment, déjà au niveau de l'envie pour pouvoir rivaliser face à cette équipe.
Les Égyptiens, quant à eux, comptent maximiser leurs chances de qualification devant leur public en enregistrant une 2e victoire de suite ce mercredi face à la RDC, en croire leur coach, l'Espagnol Javier Aguirre. Tout ce que nous voulons demain, c'est d'engranger le plus grand nombre de points possible face à la RDC. Égypte-RDC, coup d'envoi du match ce mercredi à 20h, temps universel. Depuis le Caire, Jonathan Massiala de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Voilà, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.